que le député de Jean Talon pour le Parti québécois, Pascal Paradis. Toujours un plaisir de jaser avec M. Paradis à Rage Against le matin. Il est au bout du fil. Bon matin, M. Paradis.
Salut, messieurs.
Merci d'être là. Toujours un plaisir de passer un peu de temps avec vous.
Plaisir partagé.
Monsieur Paradis, est-ce qu'on sautons directement dans le vif du sujet? Est-ce qu'il y a une façon de suivre, voire lire, la stratégie de M. Donald Trump ou on va simplement devoir accepter qu'on va être en mode réaction au jour le jour pendant 4 ans?
Ben, j'écoute votre question avec un sourire. Je vais vous faire une comparaison avec le bulletin de météo là, que vous venez de faire. Okay. et que j'ai entendu là, vous annoncer des bourrasques, que ça sera pas facile, qu'il va y avoir des difficultés de déplacement. Ben, je pense qu'il faut apprendre à composer avec la nouvelle administration américaine que ça vient, c'est comme les bourrasques l'hiver au Québec, ben l'administration Trump, ça vient avec des turbulences, ça vient avec des annonces inattendues qui nous arrivent justement de l'avion présidentiel un dimanche après-midi, des tarifs qui seraient imposés un peu partout dans le monde sur, ben, en fait, à tous les pays du monde sur l'aluminium et sur l'acier. Il faut garder la tête froide. Il faut apprendre à ne pas réagir en panique à chaque fois qu'il y a des annonces, parce que vous vous souviendrez que on a joué dans ce scénario-là là, il y a 10 jours avec des annonces que là il y allait avoir des tarifs particulièrement sur les produits canadiens et ça n'a pas eu lieu, donc il y a eu un sursis et la possibilité de négocier. Maintenant, remarquez cette fois-ci aussi, le décret indique que ça sera en vigueur, si ça arrive, uniquement le 4 mars. Donc, il y a peut-être là un signal aussi.
Ouais. Monsieur Paradis, on l'a mentionné un petit peu plus tôt ce matin. On disait, à un moment donné, tu sais, il faut passer des paroles aux actes. C'est bien beau de crier haut et fort, achat local, diversifier l'économie, briser les frontières entre nos différentes provinces, mais il faut le faire aussi. Est-ce que c'est ce qui est important en ce moment pour le Québec, pour le Canada et l'unité canadienne, l'économie canadienne, de pas juste le crier haut et fort, mais d'avoir une bonne base puis de passer aux actes?
Nous, on pense, puis au Parti québécois, vous remarquerez qu'on a fait beaucoup de propositions. On a travaillé très fort pour dire, bon, il y a toute la question de la riposte tarifaire, si nécessité il y a d'avoir une riposte tarifaire, mais qu'il faut aussi, de manière urgente, travailler aux autres options. La diversification des marchés, c'est possible. C'est pas quelque chose là, qui se fait là, en claquant des doigts. Mais remarquez qu'actuellement, partout dans le monde, les gens ont remarqué ce qui se passe, vivent souvent la même situation. Le président Trump a annoncé que, ben là, vous savez, là, les tarifs sur l'aluminium et sur l'acier, ça touche toute la planète. Il a annoncé aussi qu'il y aura des mesures relativement à l'Europe. Donc, notamment en Europe, il y a des gens qui nous disent, bon, ben là, il y a un nouveau contexte. On peut faire front ensemble et on peut aussi développer des opportunités ensemble. Donc ça se fait. Nous, on a dit, ben formons cette équipe Québec. Formons cette équipe de Québec d'abord pour aller à Washington. Puis là, le premier ministre est allé tout seul avec les autres premiers ministres. On pense que s'il y avait vraiment eu une main tendue, comme il nous le disait, on serait ensemble. Ensuite, des missions commerciales. C'est le temps d'aller en Europe, c'est le temps d'aller en Afrique, c'est le temps d'aller en Amérique latine, c'est le temps de dire là, c'est un contexte difficile, mais qui offre aussi des opportunités. Maintenant, pour les barrières à l'intérieur du Canada, ça fait aussi des décennies qu'on en parle. Ce qui démontre un peu que si on n'a pas réussi aussi bien qu'on aurait pu le marché intérieur, c'est que c'est un autre problème du fédéralisme canadien. Et maintenant, il faut les regarder au cas par cas aussi, les fameuses barrières. Parce que oui, il y a des barrières administratives qui sont inutiles, il faut y travailler. Mais si, concernant le Québec, on parle par exemple de la nécessité d'avoir de l'étiquetage en français, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que nous, ça veut dire ça? Est-ce que c'est une barrière? Est-ce qu'il faut la laisser tomber? Il y a quand même aussi des règles qui sont dans l'intérêt public. Et donc, il faut le regarder au cas par cas pour développer le marché canadien. Puis nous, vous savez, on est indépendantistes. Les gens disent, ben, est-ce que c'est contradictoire? Non, c'est pas contradictoire, parce qu'un Québec indépendant aussi voudrait avoir des relations les plus développées possibles avec les voisins canadiens.
Au niveau de la fiscalité, qu'est-ce que le PQ prône? Parce qu'on a parlé avec plusieurs entrepreneurs, notamment Nicole Loblet, le directeur général de Boss Atlas, une compagnie qui fait dans les structures d'acier en Boss, 325 employés. Puis lui, il dit, j'ai proposé diminuer ma RRQ à 2 % me permettre un étalement pour mes paiements d'impôts, faire des pressions au niveau du gouvernement canadien pour que le programme à temps partiel soit sur 52 semaines et non 26 semaines. Autrement dit, l'aide aux entreprises doit être plus permanente, comme justement M. Blais le demande?
Il y a deux éléments centraux dans les propositions du Parti québécois. Il y en a un qui est justement de nature permanente, et ça, c'est une demande du secteur, notamment des PME depuis longtemps, c'est la débureaucratisation et l'allègement administratif, parce que dans les dernières années, il y a eu une croissance incroyable du nombre de rapports, du nombre de papiers, du nombre de démarches que tu dois faire dans tous les domaines quand tu es en lien avec le gouvernement. Moi-même, ayant été entrepreneur dans mon ancienne vie, j'ai vu ça, là, que tu t'adresses au même gouvernement. Donc ça, là, ça coûte très cher en temps, très cher en argent. Il y a des calculs là, qui disent que c'est par milliards de dollars que ça se calcule. Ça, c'est de un. C'est moi, d'ailleurs, qui est en charge là, de continuer à être en dialogue avec tout le monde des affaires au Québec pour viser, cibler les mesures de ce côté-là. La deuxième, c'est que nous, on dit, actuellement, il faut être en développement de nouveaux marchés. Il faut se défaire le plus possible de la dépendance au marché américain. Pour rappel, pour les auditeurs, c'est 75 % de nos exportations qui sont aux États-Unis. Les États-Unis vont demeurer un marché important toujours, mais là, 1 % au Royaume-Uni, 1,7 % en France, ça se développe. Là, je vous parle pas de l'Afrique et ailleurs dans le monde. Nous, on propose de défiscaliser les revenus tirés des nouvelles exportations dans des nouveaux marchés. Donc là, tu as un incitatif. On t'amène d'abord, on fait des missions commerciales, on t'aide plus que jamais à aller ailleurs dans le monde puis aller rencontrer des partenaires. Et ensuite, si tu développes ces marchés-là, on défiscalise tes revenus tirés des nouvelles exportations dans les nouveaux marchés.
Monsieur Paradis, le premier ministre François Legault visite Washington. Ça doit être quoi sa priorité lors de cette visite-là où on peut utiliser mission?
Bien, bon, d'abord, on note que dimanche, lorsque le président Donald Trump a annoncé des tarifs sur l'acier et l'aluminium, la première réponse de François Legault, ça a été sur X, de dire « Vite, renégocions l'accord de libre-échange États-Unis-Canada-Mexique ». J'avoue ma grande surprise. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à dire que d'avoir l'air de dire ben arrête de me taper dessus, je vais mettre un genou à terre et on va renégocier.
Ouais.
Je pense qu'actuellement, Donald Trump est dans une hyperactivité en décret. Là, le nombre de décrets qu'il signe à chaque semaine est presque du jamais vu, c'est presque inédit. Il se sent très fort, il vient d'obtenir sa majorité au Sénat, à la Chambre des représentants. Je pense pas que ça soit le meilleur moment pour dire ben, on va tout mettre sur la table puis on va tout renégocier. Alors j'espère qu'il ne s'en va pas à Washington porteur de ce message principal. S'il est là, puis là on a une partie de l'agenda qui a commencé à sortir, ben on espère qu'il va créer des contacts propres au Québec, parce que là il est à l'intérieur d'une délégation canadienne. Ça aussi on le dit. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts au Canada. Là. Même actuellement, là, l'intérêt de l'Ontario vis-à-vis de l'acier n'est pas le même que celui du Québec pour l'aluminium. Donc là, il faut qu'il veille aux intérêts du Québec en établissant des relations avec les gouverneurs, les sénateurs, les représentants à la Chambre, avec l'administration Trump, mais aussi dans le monde des affaires. Très, très, très important de continuer à lancer ce message que la collaboration et l'intégration économique est la meilleure solution plutôt que la guerre commerciale.
Vous parlez justement des intérêts du Québec à l'intérieur du Canada. On le sait, le PQ, un parti souverainiste. Comment vous évaluez la montée du patriotisme canadien au Québec? Est-ce que, justement, cette crise-là peut vous faire mal politiquement? Puis là, j'ai en tête l'élection partielle là, qui s'en vient à Terrebonne.
Bien, d'abord, voyez la vision de notre gouvernement qui a laissé Terrebonne presque six mois sans député, puis là, qui déclenche une élection partielle alors que c'est ça qui se passe ailleurs dans le monde. Ça démontre un peu la vision du gouvernement. Maintenant, la situation actuelle, pour nous, démontre aussi l'intérêt pour le Québec de s'occuper lui-même de ses propres affaires. Il n'y a pas de front canadien, il n'y a pas d'unité canadienne. Vous avez vu comment Daniel Smith s'est conduite. Vous avez vu comment Doug Ford aussi a navigué, même dans les prairies, dans les provinces de l'Est, chez chacun pour soi. Et je le redis encore, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et historiquement, les intérêts du Québec sont souvent pas passés en premier. Dans le contexte commercial international mondial actuel, les pays qui tirent le mieux leur épingle du jeu, c'est des pays de la taille de ce que serait le Québec comme pays indépendant. Par exemple, les pays scandinaves, dont la richesse depuis des décennies dans le contexte actuel, puis c'est pas la première guerre commerciale qui s'annonce, ils ont très bien tiré leur épingle du jeu. Puis l'argument contraire peut se faire valoir, là. En quoi le Canada, ou en quoi l'appartenance au Canada a-t-il protégé le Québec, là, depuis quelques semaines, depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a été protégé? Est-ce qu'on a eu un bouclier canadien? Est-ce que le président Trump se conduit avec le Canada comme avec un mastodonte du commerce international à qui il ne peut pas se permettre de tout faire? Poser la question, c'est y répondre. Ouais.
Mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon persiste et signe, le Parti québécois persiste et signe en disant un référendum dans un premier mandat. Je suis souverainiste, j'aimerais un Québec-pays, mais je me dis, ce serait de se tirer dans le pied. Ce référendum-là a aucune chance de victoire dans le contexte actuel.
Ben, je vois pas pourquoi vous dites ça. D'abord, qui parle de référendum actuellement, là, au moment où on se parle, avec un gouvernement fédéraliste au pouvoir à Québec, puis le Parti libéral fédéral à Ottawa, c'est les fédéralistes qui parlent de ça, qui l'utilisent pour faire un profit politique. Nous, on a toujours le même objectif, de gagner la confiance des Québécois aux prochaines élections générales, puis ensuite, dans le premier mandat, d'organiser un référendum sur l'indépendance du Québec. Faut pas penser là qu'on va être dans cette situation-là pendant les 4 prochaines années, donc ou les 5-6 prochaines années. Alors moi, recevoir des leçons, de prendre des bonnes décisions pour la stabilité, alors que regardez c'est quoi la situation là. Au Québec, on a un gouvernement de la CAQ qui vient de déclencher une élection partielle en pleine situation. On a un Parti libéral du Québec qui est en course à la chefferie dans la situation actuelle. À Ottawa, on a un premier ministre qui a démissionné puis qui a déclenché une course à la direction du Parti libéral en pleine situation avec les États-Unis. On a un parti conservateur dont tout le monde dit, tous les observations disent qu'une de ses grandes difficultés, c'est qu'il n'a pas été capable d'arrêter de faire de la politique partisane alors qu'on a besoin de réfléchir à nos intérêts collectifs. Alors, faut être capable aussi de regarder là, les deux côtés.
Monsieur Paradis, à quel point une victoire lors de l'élection partielle dans Terrebonne serait un game changer pour le Parti québécois?
C'est énorme pour nous parce que avant moi d'être élu, Paul Saint-Pierre Plamondon puis les trois mousquetaires me disaient « Ton arrivée, ça va vraiment changer quelque chose pour nous en termes de force de travail. » Vous savez, on est peu nombreux, nous, au Parti québécois. Alors maintenant que je suis à l'intérieur de la députation, je sais à quel point l'arrivée de Catherine Gentilcor va changer les choses pour nous. Et puis, ça va être la même chose pour moi dans Jean Talon que pour Catherine dans Terrebonne. Elle va avoir une voix distincte, une voix forte. Elle va pouvoir parler dans l'intérêt de la région. Donc, ça va faire une grande différence aussi pour la circonscription, pour le jeu démocratique à l'Assemblée nationale. Alors, oui, c'est une circonscription importante. C'est pour ça qu'on va travailler très fort pour avoir la confiance des citoyens de Terrebonne.
Monsieur Paradis, je termine avec une question d'un auditeur, Pierre-Luc, qui mentionne « Vous parlez des pays scandinaves, mais ils exploitent au maximum leurs ressources naturelles. Est-ce que le PQ ferait la même chose au Québec, notamment avec le gaz et le pétrole? »
Bien, vous savez, pour le gaz et le pétrole, c'est un débat qu'on a eu au Québec et il y a eu deux aspects. Il y a celui de l'acceptabilité sociale, de ce que ça coûte sur la vie quotidienne des personnes affectées, mais il y a aussi l'intérêt économique. L'intérêt économique du Québec n'a pas été démontré dans le cadre de ces projets-là. Et nous, par ailleurs, on est une puissance mondiale dans d'autres formes d'énergie, notamment l'énergie électrique. Et c'est celle-là, notamment, qu'Hydro-Québec s'est fixé comme plan de développer encore plus. Donc, il y a un grand plan de développement énergétique du Québec extrêmement ambitieux qui vise à vraiment à multiplier notre capacité de produire de l'énergie. Et c'est l'énergie du futur. Alors, c'est sur cette énergie-là qu'il faut continuer à miser.
Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Monsieur Paradis, merci pour votre temps ce matin. Toujours très apprécié.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
À bientôt.
Merci.
Pascal Paradis du Parti québécois.
Yes, toujours super intéressant, pertinent. Un homme très intelligent. Moi, je me le cache pas. J'aime beaucoup la vision du PQ en matière de fiscalité pour nos entreprises, notamment de défiscaliser les nouveaux gains faits à l'extérieur des États-Unis. Je trouve que c'est un excellent incitatif pour nos entreprises à aller faire du commerce ailleurs. Je reste sur mon appétit quand on parle de développement des ressources au Québec.
Ouais.
Je trouve toujours qu'on a peur. Puis l'acceptabilité sociale, c'est bon pour contrer le pétrole puis le gaz, mais c'est pas bon quand on parle du tramway.
Ouais.
On l'a à double sens, je trouve, au niveau du PQ, cette acceptabilité.
On l'utilise comme on veut. Hein?
Oui, exactement. Ouais. Question très pertinente aussi de Max sur la souveraineté. Là, en effet, moi, je suis d'avis, puis je ne suis pas souverainiste comme Max, mais je suis d'avis que présentement, à 27 % je pense, d'un sondage, le oui, c'est quelque chose comme
c'est
ça.
C'est ça. Dans les dernières années, souvent, on était autour du 30-35, mais là, dans les dernières semaines, avec ça a mangé une claque, fait que...
On va se le dire, là, stratégiquement, ça serait
pas... Ah, moi, je
vote... Oh, tu prends pas un timing idéal.
Je voterais oui pareil, je l'ai dans mon sang, mais je suis conscient que ça serait une défaite. Là.
Circulation, Max, avant la pause?
J'ai rarement vu ça, la capitale rouge de même, la capitale ouest de bout en bout, de Seigneurial jusqu'à Henri IV. Là. C'est jamé, Laurentienne, direction sud, d'assez haut du boulevard Henri Bourassa jusqu'à la capitale. Robert Bourassa, ben jamé, Henri IV sud aussi, avenue industrielle jusqu'à Chauveau-Ouest, la 40-Est. L'incident en tant que tel s'est terminé, mais encore très difficile dans le coin de Saint-Augustin-des-Morts. Secteur des ponts, pas facile non plus. Terrible matin de circulation.
Merci, Max. Puis merci pour les informations via le 88-971-1021 ainsi que votre participation à l'émission. On va faire une courte pause dans l'heure de 8 à Rage Against le matin. On va jaser justement de l'impact de ces tarifs-là sur l'aluminium et l'acier avec François Desmarais, qui est vice-président affaires commerciales et industrielles de l'Association canadienne des producteurs d'acier. Et depuis le Super Bowl... Je suis découragé, boys. Je suis découragé.
De quoi? Les Chiefs ont perdu?
Ça. Non, ça n'a même pas...
Non!
Même pas rapport avec le résultat du match. Je parle de ça après la pause. Okay.